Chapitre 47, versets 1 à 12, les eaux du sanctuaire. Nous pouvons considérer ce passage sous trois points de vue. Son interprétation prophétique peut être matérielle. Il est très possible que la rivière dont Ézéchiel nous donne le tableau, mentionné par Joël, chapitre 3, verset 18, et par Zacharie, chapitre 14, verset 8, devienne une réalité géographique de la Palestine future. La signification prophétique, spirituelle, nous importe pourtant davantage. Jérusalem, siège de la présence de Dieu sur la terre pendant le règne, devient source de bénédiction pour le monde entier. Les eaux de la grâce descendent tant vers l'Orient que vers l'Occident pour apporter la vie là où régnait la mort. Nous voulons cependant surtout nous arrêter à l'application pratique de cette page à nous-mêmes. Que représentent ces eaux sortant du sanctuaire? Ne sont-elles pas une figure remarquable de la grâce et de l'amour de Dieu, jaillissant de son cœur et se répandant en bénédictions toujours plus vastes et plus profondes, pour les siens et pour le monde? Traverser la rivière. Amené au Seigneur, trouvant en lui son Sauveur, le racheté a fait une première expérience de la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2. Dans son dernier message, l'apôtre Pierre nous exhorte à ensuite croître dans la grâce. De Pierre 3, verset 18. Beaucoup de chrétiens se contentent de longer cette rivière sans jamais la traverser. Pourtant, seule l'expérience pratique, personnelle, de la grâce, nous en fera goûter la profondeur. Après avoir marché 1000 coudées, le prophète doit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. C'est la grâce dans les circonstances variées du chemin. Que d'occasion de goûter la bonté de Dieu, ses soins, ses délivrances. Ainsi le faisait Israël au désert, où, malgré 40 ans de marche, son pied ne s'était pas enflé. Il ne faut pas en rester là. Ézéchiel doit marcher 1000 coudées encore, et de nouveau traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux genoux. La parole nous parle souvent des genoux défaillants, des genoux qui tremblent ou qui sont lassés. En poursuivant la course de la foi, ne rencontre-t-on pas des jours où l'on est découragé, las du chemin, où l'on a peur? Que faire alors, sinon traverser à nouveau la rivière? Faire l'expérience de la grâce de Dieu qui répond à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous ne sommes pas. Dans la prière, à genoux, le rechercher et le trouver, toujours prêt à secourir, à fortifier, à restaurer. Le prophète doit marcher 1000 coudées encore et de nouveau traverser, des eaux montant jusqu'aux reins. Le Nouveau Testament nous parle souvent de ces reins qu'il faut ceindre, figure de notre être intime qui doit être formé par la parole de la vérité et renouvelé de jour en jour. Il ne suffit pas de connaître la grâce s'appliquant à nos circonstances journalières ou nous soutenant dans nos moments de découragement. Il faut qu'elle pénètre notre vie intérieure, forme notre personnalité. Quel rayonnement découle d'une personne qui a fait pareille expérience de la grâce de Dieu et en est pénétrée? Il y a plus encore. Et il mesura 1000 coudées. C'était une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux avaient cru. Des eaux où il fallait nager. Dans sa prière en Éphésiens 3, l'apôtre demandait que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur n'amène-t-il pas à se rendre compte que cette grâce, cet amour, sont sans limite? On a pu en goûter la profondeur, en considérer la largeur et la longueur, s'y plonger comme dans une rivière immense. Elle est trop large pour la traverser. L'amour du Christ surpasse toute connaissance. La rivière descend. Les versets 6 à 12 nous présentent un autre sujet. Le prophète doit retourner sur le bord de la rivière. Il constate que ces eaux plus profondes descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Il est précieux de jouir de la grâce du Seigneur pour soi-même, mais cette grâce désire se répandre, et la bénédiction que l'on a reçue peut et doit se communiquer à d'autres. Vous avez reçu, donné, dit Jésus à ses disciples. Ils n'avaient que 5 pains, mais il leur dit, vous, donnez-leur à manger. Les eaux sortent, descendent, parviennent, rendent les eaux de la mer saines. Tel est le chemin de la grâce. Tel fut celui du Seigneur Jésus lui-même, le sentier qui descend pour atteindre ceux qui sont plongés dans l'ombre de la mort et leur apporter la vie. Tout vivra là où parviendra la rivière. Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Les poissons ne nous parlent-ils pas des âmes tirées de ce monde perdu et amenées au Seigneur pour faire l'expérience à travers la nouvelle naissance de tout l'amour de Christ ?» Les arbres. Sur la rivière, des deux côtés, se dressaient des arbres en très grand nombre. La vision d'Ézéchiel est pour la terre. Ces arbres ne représentent-ils pas les croyants, si souvent comparés dans la parole à un arbre, voir psaume 1, Jérémie 17, etc., dont les racines s'étendent vers le courant, afin que la feuille reste toujours verte? Personne ne voit les racines, la vie secrète qui se nourrit de la grâce. Mais chacun voit les feuilles, le témoignage d'une vie vécue avec le Seigneur pour la bénédiction des autres. Leurs feuilles pour guérir, verset 12. Un fruit aussi est produit, et la nourriture est procurée au peuple de Dieu. L'arbre de vie. Remarquons une fois de plus le parallélisme des visions de Jean avec celle d'Ézéchiel. En Apocalypse 22, versets 1 à 2, Jean nous parle du fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. La vision de Jean est pour le ciel. Au milieu de la rue de la cité, là où s'écoule son mouvement, au milieu du fleuve, au centre de tout ce qui rafraîchit, et de ça et de là, était l'arbre de vie. Dans le ciel, non pas plusieurs arbres, mais l'arbre, le Seigneur Jésus lui-même, dont le fruit sans cesse frais et renouvelé nourrira toujours ceux qui jouiront là-haut de sa présence et dont les feuilles seront pour la guérison des nations, ressource indispensable à ceux qui, pendant le millénium, seront bénis sur la terre. Jéhovah Shamma. Lisons encore le dernier verset d'Ézéchiel. Le nom de la ville dès ce jour, l'Éternel est là. Chapitre 48, verset 35. N'est-ce pas le résumé de tout le livre, l'affirmation finale, la seule chose qui importe vraiment, la présence de Dieu au milieu du peuple enfin rassemblé? Nuée dans le tabernacle et dans le temple de Salomon, gloire revenue au temple d'Ézéchiel, c'est Israël béni sur le pied des promesses. Pour nous, apparition du Seigneur Jésus dans la chambre haute au soir de la résurrection, présence goûtée au milieu des siens rassemblés à son nom pendant son absence, présence réalisée aussi individuellement dans le cœur, Christ vit en moi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Présence enfin éternelle et sans voile, dans le jour bienheureux où, tous ces conseils ayant été accomplis, Dieu sera tout en tous. Ta présence est le bien suprême, ton amour ne tarit jamais. Ton cœur dispense à ceux qui l'aiment repos, bonheur, parfaite paix.